Alors ensuite, on a un genre qui est un peu intermédiaire entre le mythe et la légende, c'est l'épopée. Le principe de l'épopée, c'est que c'est le récit d'un héros qui a un rôle quand même aussi fondateur, civilisateur. Généralement, il est en mission pour soit restaurer l'harmonie, soit installer un nouveau monde. Alors, quelques exemples de grands héros épiques, on a Arthur, on a, dans les plus connus, bien sûr, Hercule, Héraclès, on a l'Odyssée, enfin Ulysse. Ensuite, bon, après, c'est plus exotique. Par exemple, on a Rama en Inde, on a Geza au Tibet, on a Yoshitsune au Japon. Alors, ce sont des personnages qui sont plus ou moins historiques, prétendument historiques pour beaucoup. Certains sont réellement historiques. Et puis après, se greffe aussi autour d'eux toute une légende, tout un cycle d'histoire. Donc on voit le phénomène, par exemple, avec Arthur. Mais avant, il y avait un autre grand héros qui, lui, est historique, c'est Charlemagne. Il y a eu un cycle de Charlemagne dont la chanson de Roland n'est qu'un épisode. Donc Charlemagne, au XIe siècle, c'était le grand héros civilisateur qui avait réunifié l'Europe. C'est déjà le premier, c'est un premier grand héros européen qui avait réunifié l'Europe, qui avait rétabli le christianisme catholique, qui avait apporté aussi l'éducation, hein, quasi a rendu l'école presque obligatoire. Et puis, après, il est supplanté par Arthur, donc le cycle arthurien, les chevaliers de la table ronde. Alors, Arthur, c'est historiquement, ça serait une espèce de roi ou peut-être chef de guerre qui aurait repoussé des invasions saxonnes à la fin de l'Empire romain, au VIe siècle. Donc ensuite, c'est devenu la figure d'un roi mythique, légendaire, et puis s'est greffé dessus beaucoup de récits de la mythologie celtique, parce que c'est un mythe qui a été élaboré principalement en Grande-Bretagne avec des bardes celtiques, gallois, irlandais, écossais, etc., qui étaient à la cour des rois d'Angleterre, qui étaient eux-mêmes d'origine normande. Il y a aussi Aliénor d'Aquitaine qui est dans le coup parce qu'elle a d'abord été mariée au roi de France, après au roi d'Angleterre. Et il y a l'influence des troubadours, donc aussi de l'Espagne, de l'Andalousie et bien sûr de l'Orient et de l'Afrique du Nord. Donc toute une veine aussi poétique, une autre vision du monde, un autre rôle de la femme. Et on arrive à une espèce de société idéale avec, bien sûr, mise en avant la courtoisie, le fin amour, donc la sublimation finalement de l'amour, des sentiments, avec toute une dimension poétique. Donc tout ça, c'est chanté par des troubadours, des trouvères, qui se sont emparés en fait de ces mythes antiques, celtiques, mais en y mêlant aussi de la mythologie gréco-romaine, et puis un soupçon aussi, surtout dans les versions tardives, de tout ça, il y a eu un vernis chrétien par-dessus pour faire passer tout ça, quoi. En fait, la chanson de geste, c'est un chant épique. Alors après, ça se fixe, effectivement, on a la chanson de geste du XIe siècle avec la chanson de Roland, où là, il y a la récitation épique est même musicalisée, est très importante, elle prédomine, donc c'est écrit en strophes. Alors là, je n'ai pas parlé de la stylistique, mais en tout cas, c'est écrit en strophes qui sont assonancées par strophe, par laisse. En fait, on voit bien justement que c'est pour la prestation orale, et notamment la récitation épique, sûrement accompagnée par des instruments. Et puis après, on va basculer avec l'épopée arthurienne, qui était portée aussi en partie par, selon le même principe, puisqu'on a les laits, par exemple, de Marie de France, qui reprennent aussi des récits justement celtiques, et notamment arthuriens. Mais après, on a la bascule avec Chrétien de Troyes qui va écrire sans plus de strophes. Alors c'est toujours en vers, en octosyllabes, qui sont avec une rime. Mais par contre, il y a plus de strophes, et on voit bien que c'est plus tellement pour la récitation épique, mais plutôt pour la lecture à haute voix. Et c'est lui qui invente le roman, finalement. Donc là, il y a une bascule d'un point de vue stylistique, mais on est quand même dans le domaine de l'épopée, de la légende, avec un lien apparemment historique qui, bien sûr, se transforme beaucoup avec les conteurs, quoi. Et puis, ça reprend toute une symbolique. Bon, par exemple, dans Perceval, on retrouve beaucoup deux couleurs, le rouge et le blanc, qui sont des couleurs alchimiques, puisque dans le grand œuvre alchimique, on a l'œuvre rouge, l'œuvre blanc, l'œuvre noir, et ces trois couleurs, on va les retrouver à certains moments dans le récit. Par exemple, il y a trois gouttes de sang sur la neige. Perceval tombe en extase devant cette image, parce qu'il a l'impression aussi de voir le visage de Blanchefleur, etc. Et alors, dans la version allemande, pas dans la version de Parsifal, ce qui est très beau, c'est que pour le faire sortir de son extase, de sa contemplation, il y a Gauvain qui vient avec une cape noire qui jette sur les gouttes de sang, et l'image disparaît. Et on a aussi l'image du corbeau, à un moment donné, qui vient becqueter les gouttes de sang. Donc on retrouve les trois couleurs qui sont aussi les trois couleurs dans Blanche-Neige. Sans arrêt, il y a aussi le chevalier vermeil sur un cheval blanc. Enfin, donc, voilà. Donc c'est très codé comme ça. Et puis, bien sûr, il y a le vernis chrétien avec le Graal qui serait le calice qui aurait recueilli le sang du Christ, alors que les versions les plus antérieures, les plus païennes, ne parlent que d'un chaudron d'abondance. Ou un chaudron de résurrection qui existe dans la mythologie galloise, par exemple. Voilà. Alors donc là, on est dans l'épopée, héros civilisateur qui amène une nouvelle vision du monde. Là, on voit la différence entre, au XIe siècle, la chanson de Roland qui est très fruste, assez manichéenne, où la femme n'a quasiment aucune place. Il y a très peu de femmes et elles ont quasiment aucun rôle. Et puis tout à coup, dans l'épopée arthurienne, la femme a quand même une place assez importante. Non seulement, bien sûr, il y a la reine Guenièvre, mais il y a aussi la fée Morgane. Il y a beaucoup de femmes qui sont un peu des magiciennes, des inspiratrices, des poétesses parfois. Enfin bon, la femme est sublimée. Alors, d'ailleurs, ça a eu quand même une grande influence dans la société, parce que les troubadours aussi se mettaient à chanter la dame qui était honorée, et du coup l'Église en a pris ombrage. Et donc elle a inventé le concept de Notre-Dame. En fait, c'est pour supplanter la dame des chevaliers. Voilà, donc vous voyez un peu les interférences sociales. Et alors d'ailleurs, beaucoup de troubadours, dont certains étaient évêques ou moines, justement, codaient aussi leurs chansons. C'était soi-disant une chanson dédiée à la Vierge Marie, mais en fait, avec Notre-Dame, ben, vous pensez qu'ils pouvaient faire passer autre chose, quoi. Voilà, donc pour montrer quand même l'influence, et puis bon, après, il y a toutes ces expressions de chevaliers servants, de courtoisie, qui sont quand même plus ou moins passé dans les mœurs. Donc ça veut dire qu'en fait, un récit mythologique ou épique peut avoir une influence sur la société. Et surtout s'il y a une adhésion, bien sûr, de ceux qui l'écoutent. Donc on peut dire que c'est en quelque sorte la fonction de ces récits. Tout comme au Japon, par exemple, l'épopée de Yoshitsune, qui est un héros historique, qui a réellement existé. Après, bien sûr, se sont greffés des épisodes légendaires, mais en tout cas ça a donné l'éthique du samouraï. C'est vraiment le réservoir de tous ces récits qui ont été exemplaires pour les samouraïs, dont ceux-ci se sont inspirés, ont essayé, comme les chevaliers, essayer de correspondre à ces héros épiques qui étaient considérés comme des modèles de grandeur humaine. Donc ça peut aller même très loin, cette imitation. Alors après, bien sûr, avec Don Quichotte, là, on a l'anti-conte pour effectivement sortir de cette fascination du héros épique. Alors ensuite, il y a un autre genre très important, c'est le conte merveilleux, qui se distingue de l'épopée et des mythes, parce que le conte merveilleux, généralement, dans la plupart, c'est vraiment une constante, n'a aucune racine historique, ni même souvent géographique. C'est le no man's land, dans un lieu, un royaume lointain ou proche, mais en tout cas, c'est souvent un royaume qui est au-delà de cette montagne, au-delà de cette vallée ou au-delà de cette mer, dans un lieu. Vraiment un lieu indéfini. Et vous savez que les contes merveilleux commencent toujours par des formules d'introduction qui sont un peu comme des formules magiques. Il était une fois, il n'était pas une fois, il sera toujours une fois. Car si cela n'était pas, on ne le raconterait pas. Puis il y a les formules de conclusion. Cric-crac, mon conte est retourné dans son sac. Voilà. Donc c'est vraiment pour dire on rentre dans un autre espace-temps, dans une sorte de petit rituel laïque. Et pendant un moment, on suspend nos références mentales. Voilà. Personne ne va dire « Ah, mais non, mais c'est pas possible, ton histoire. » Tout le monde se prête au jeu d'un voyage dans un imaginaire où tout est possible, où on peut rencontrer des géants, des fées, des animaux qui parlent. Voilà. Tout est possible. Mais il y a quand même une constante dans le vraiment ce qu'on appelle le conte merveilleux. Donc ça a été mis en avant par des structuralistes comme Vladimir Propp, par exemple, qui a donné vraiment cette définition du conte merveilleux. C'est la structure qui est d'ailleurs tripartite, avec une démultiplication tripartite souvent, avec une situation initiale, les épreuves, donc le voyage avec les épreuves et la résolution finale, parce qu'il y a toujours une résolution finale, c'est-à-dire que ça se termine toujours bien. Le héros va épouser la princesse, ou la princesse va être libérée de son sortilège, le père malade va guérir parce que le fils a trouvé le remède miracle, etc. Donc c'est soit la levée d'un sort, soit le triomphe du héros qui va trouver l'objet de sa quête, qui peut être une princesse, mais aussi autre chose. Et puis, bien sûr, il y a des épreuves absolument terribles, terrifiantes. Ça va très, très loin. Donc, pendant longtemps, d'ailleurs, le conte merveilleux était banni même des écoles parce que ça effrayait les petits-enfants. Et donc, je me souviens au début du renouveau du conte, parfois, quand on allait raconter dans les écoles, il y avait des maîtresses qui étaient furieuses qu'on raconte des histoires aussi violentes qu'elles allaient se plaindre à la direction. Et on était bannis. Alors, ce qui a fait beaucoup de bien, en fait, c'est le livre notamment de Bettelheim, psychanalyste des contes de fées, qui démontre que, en fait, ces récits ont une fonction thérapeutique, soit de restauration, soit au contraire de sécurisation, qui permet d'avancer dans la vie, parce que, bien sûr, dans la vie, il y a des épreuves, il y a des choses même qui peuvent être terrifiantes. Alors d'ailleurs, les contes merveilleux mettent en garde aussi contre l'inceste, par exemple, puisqu'on a Peau d'âne. Et Peau d'âne, c'est vraiment un conte qu'on retrouve partout. Alors parfois c'est le père qui veut épouser la fille, parfois c'est le frère. Par exemple, en Afrique du Nord, elle va vivre parmi les gazelles. Elle se sauve et elle va vivre parmi les gazelles, par exemple. Donc après, chaque civilisation, bien sûr, va trouver son mode d'expression. En général, les versions populaires se terminent bien. Par contre, il y a des versions de lettrés. C'est pour ça que chez Andersen, il y a des contes souvent assez sombres aussi. Donc là, c'est plus des contes merveilleux, ça devient des récits d'avertissement, c'est-à-dire de mise en garde. Ça existe aussi, hein. Mais en tout cas, en principe, le conte merveilleux, même avec le petit chaperon rouge, il y a même des histoires où on fait sortir la grand-mère et même le petit chaperon rouge du ventre du loup. Ou alors elle se sauve en utilisant une ruse qui existe dans d'autres contes merveilleux. Et ça, dans les contes populaires, généralement, c'est elle qui triomphe. Ou alors même, elle parvient à s'échapper, par exemple, avec la fameuse ruse de demander d'aller aux toilettes. Le héros ou l'héroïne, avant d'être mangé, dit « Oui, mais tu sais, il faut que j'aille aux toilettes avant. » Et puis donc, le loup, alors ça peut être le loup, l'ogre, l'ogresse, etc., a peur quand même que le héros se sauve, donc lui attache un fil à la patte, quoi, une corde, et puis le tient en laisse. Et donc, comme les toilettes sont souvent à l'extérieur, le héros va à l'extérieur et puis le loup ou l'ogre tire régulièrement sur la corde pour être sûr qu'il est toujours là. Mais en fait, la ruse, c'est d'attacher la corde à un arbre, par exemple, et donc il croit qu'il est là. Et puis pendant ce temps-là, le héros ou l'héroïne s'enfuit. D'ailleurs, souvent, les rôles sont un peu interchangeables, parce qu'au Japon, c'est un moignon qui va chez l'ogresse, la Yamamba, qui utilise cette ruse, mais alors parfois c'est le petit chaperon rouge. Donc les héros sont assez interchangeables en fait entre le féminin et le masculin, hein, parce que certains disent oui les contes sont misogynes, etc. Non, il y a des héroïnes très actives dans les contes. C'est pas la princesse au bois dormant qui attend le prince charmant. Au contraire, elle va être très active, notamment comme Vasilissa aussi, qui s'enfuit de la maison de la Baba Yaga, par exemple. Donc elle s'est trouvée des alliés parce qu'elle a nourri, en fait, elle a graissé la porte, elle a nourri les chiens, voilà, donc il la laisse passer, quoi. Alors, pour vous montrer quand même un phénomène assez extraordinaire, je voulais vous parler d'un conte merveilleux qu'on trouve chez Grimm, mais qui était vraiment répandu assez un peu partout, et notamment en Bretagne. Donc chez Grimm, c'est le Genévrier, et en Bretagne, c'est le coffre... Non, je crois la petite pomme rouge. Alors en fait, cette histoire, c'est en quelque sorte la réincarnation ou l'avatar du mythe d'Osiris. C'est pour ça que je voulais un peu raconter tout à l'heure, parce que vous allez voir, on retrouve tous les ingrédients, on pourrait dire tous les marqueurs du mythe d'Isis et d'Osiris. Un petit garçon qui vit donc dans une famille, sa mère est morte, puis donc il vit avec sa marâtre, qui a elle-même une fille un peu plus âgée, donc elle a eu du même père. Ah oui, alors c'est plutôt l'inverse, alors enfin je sais plus. Bon, bref, en tout cas voilà, il y a le frère, la sœur qui sont plutôt demi-frères, demi-sœurs, la marâtre, la mère qui est morte, qu'on a enterrée au pied d'un genévrier pas très loin là, dans la clairière. Et puis, donc, la marâtre, elle supporte pas cet enfant, c'est pas le sien, elle veut s'en débarrasser. Toujours est-il qu'il y a des pommes qu'on mûrit dans le verger, la mère envoie les enfants chercher les pommes, et le premier qui est... Non, ou envoie chercher des fagots, je sais plus, enfin, bref, il faut qu'ils aillent chercher quelque chose dans la forêt, et le premier qui revient, il aura une récompense, il pourra manger une belle pomme qui se trouve dans le coffre. Voilà. Parce qu'à l'époque, c'était rare, les belles pommes, les beaux fruits. Et donc, bien sûr, comme le garçon est l'aîné, il revient le premier, et donc la mère lui dit « Ah ben c'est toi qui as gagné, bravo, ben écoute, va prendre une pomme dans le coffre ». Donc elle ouvre le coffre, le garçonnet se penche, et à ce moment-là, la mère, paf, elle ferme le couvercle, il y a le fermoir qui tranche la tête du garçon, et sa tête va rouler dans les pommes. Et il y a le corps qui reste là. Alors la mère, ni une ni deux, elle découpe le corps... Non, c'est pas là, oh là là, bon, non, alors la mère, elle prend le corps du garçon, elle l'assoit sur une chaise, elle récupère la tête, elle la repose sur le tronc, elle met un petit foulard autour du cou pour que ça tienne, puis pour pas qu'on voit que le cou a été coupé, et puis elle met une pomme dans les mains du garçon, voilà. La fille revient... Comme elle est plus petite, elle est essoufflée, elle revient avec son fagot. Mais bon, elle est arrivée en second. Ça fait un peu Koh-Lanta. Et donc, la mère dit « Ah ben, tu n'as pas de chance, tu vois. C'est ton frère qui a gagné. Et voilà, je lui ai donné la pomme. Il ne restait plus que celle-là. Ben, t'as qu'à lui demander un morceau de pomme. Il peut bien quand même t'en donner un petit bout. » Alors la fille, elle demande un morceau de pomme à son frère, qui ne répond pas. Elle lui demande trois fois, le garçon ne répond pas. La mère dit quand même, vraiment, il est pas gentil. Hein. Oh, écoute, tu devrais même lui donner une claque s'il ne veut pas te donner un morceau de pomme. Et voilà que la petite, elle donne une claque, poum, la tête tombe par terre. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait ? S'écrie la mère. Mais tu as tué ton petit frère, ton grand frère, tu l'as décapité. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire quand le père va rentrer ? Oh là là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh là, la fille est complètement affolée. Elle a,
elle a tué son frère, oh là là. Et puis la mère dit, écoute, on va le découper en morceaux, on va le faire bouillir dans la marmite, on va faire un pot-au-feu, et puis on, voilà, et comme ça, ni vu ni connu. Et donc c'est ce qui se passe, le père rentre le soir, pouf, on lui sert le pot-au-feu, et il mange finalement son fils, quoi, voilà. Et puis la petite sœur, elle récupère tous les os du frère, elle les met dans un mouchoir ou un foulard plutôt, et puis elle va les enterrer au pied du genévrier, là où était enterrée sa mère. 3 jours se passent, et puis voilà qu'un petit matin, il y a une espèce de brouillard scintillant autour du genévrier qui peu à peu se dissipe, et puis on entend chanter un petit oiseau en haut de l'arbre, et le petit oiseau chante « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé, ma petite sœur, elle m'a ramassé. » Bel oiseau, je suis né, petit garçon, redeviendrai. Et la mère, elle ne peut pas supporter cette chanson. Et donc, elle essaye toujours de chasser l'oiseau, etc. Et puis, finalement, il revient avec des récompenses pour tout le monde, pour la fille, même pour le père. Et puis, il revient avec une énorme meule de pierre. Il est puissant, l'oiseau, qui laisse tomber sur la tête de la mère qui meurt. Et quand elle meurt, il renaît, petit garçon, encore plus beau qu'avant. Voilà. Ben oui, ça se termine toujours bien. Et la méchante marâtre est punie, et la sœur récompensée. Donc en fait, on retrouve tous les ingrédients du mythe d'Isis et d'Osiris, comme vous en êtes rendu compte. Le frère, la sœur, le coffre, le garçon qui va être démembré et puis remembré... et puis la transformation en oiseau, et après qui redevient un être humain. Donc en fait, on a vraiment l'impression que ce mythe d'Isis et d'Osiris, qui ne pouvait plus tellement se transmettre, qui a même été à moitié perdu pendant une époque, en fait, il a survécu comme un avatar dans la tradition orale, en se transformant en conte merveilleux, où là, il n'y avait plus aucune référence religieuse. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on se rend compte quand même que beaucoup de mythes, beaucoup de même d'épopées ont un peu le même canevas que des contes merveilleux. Par exemple, dans l'épopée tibétaine de Gézard, il y a 4 grandes parties, et l'une des parties, c'est l'archétype qu'on appelle le corps sans âme ou le géant sans cœur. Le démon qui doit vaincre, en fait, il peut pas, le héros ne peut pas le vaincre parce qu'il n'a pas ses esprits vitaux sur lui. En fait, il a caché ses âmes ailleurs. Il faut trouver là où il a caché ses âmes pour pouvoir le vaincre. Sinon, il est invincible. Bon, ça, c'est vraiment un archétype qu'on retrouve partout et qui est mis un peu à toutes les sauces. Là on voit bien qu'il y a une influence chamanique, en fait, une origine chamanique. Parce que, bon, je pense que les premiers mythes, bien sûr, sont nés... inventé par les chamans, que ça fait vraiment partie des récits les plus anciens de l'humanité qui devaient exister déjà à l'époque des cavernes. Ils devaient avoir cette vision du monde exprimée par des mythes. Alors d'ailleurs, oui, en revenant juste aux héros civilisateurs des épopées, le lien aussi avec le divin, c'est que ce sont parfois des divinités incarnées, c'est-à-dire des dieux qui doivent s'incarner dans un corps humain. Ça, c'est une chose que je n'ai pas dite, mais c'est vraiment ce qu'on trouve en Asie avec le Rama, qui est l'incarnation de Vishnu. Gézard au Tibet, c'est aussi l'incarnation du fils du roi des dieux. Et alors, d'ailleurs, c'est parfois des dieux qui ne veulent pas y aller. Hein. Donc, on leur dit, allez, maintenant, pour rétablir l'harmonie sur la Terre, il y a les démons, les êtres démoniaques ont pris le pouvoir sur la Terre. Il faut, voilà, une puissance... supérieurs qui viennent rétablir l'harmonie, et donc on cherche des volontaires, et quand il n'y en a pas, les dieux tiennent des conseils et désignent quelqu'un qui est obligé d'y aller. Alors il pose ses conditions, Gézard, il dit oui, mais d'accord, mais moi je veux qu'un tel, un tel parmi les dieux s'incarne aussi sur Terre pour devenir mes compagnons, mes alliés, en fait ça, un peu sa confrérie de la table ronde, etc. Voilà. Et d'ailleurs, Gézard oublie son origine. Donc à un moment donné, il y a une déesse qui lui apparaît et qui dit « Oh Gézard,
Éveille-toi, n'oublie pas qui tu es vraiment. Si le roi s'assoupit, le désordre se répand dans le royaume. Si les lamas tombent dans le sommeil, la religion dégénère. Et toi-même, tu dois retrouver ton origine divine. N'oublie pas pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu ici-bas pour chasser les démons mangeurs d'hommes, pour sauver tous les êtres. Bon, c'est un peu le thème du bodhisattva dans le bouddhisme, c'est-à-dire celui qui a atteint l'éveil mais qui doit rester sur terre, revenir sur terre pour aider les autres à se libérer. Donc dans le conte merveilleux, bien sûr, ce qui est important dans la fonction, c'est le fait que, comme ça reste assez abstrait, chacun peut projeter, peut se projeter dans le héros, voire dans l'ogre, la marâtre, ben peut-être des gens qui connaissent. Donc en fait, ça fait une espèce de psychodrame qui peut libérer un peu les tensions accumulées. Et puis surtout, ce qui est rassurant, c'est de voir que le héros, malgré qu'il soit maltraité, parce que là, il est carrément découpé en morceaux, il va triompher quand même.